Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Une grande affaire criminelle aujourd'hui qui se situe dans une période absolument passionnante qui est celle qui précède l'abolition de la peine de mort dans notre pays, dans les dernières années pendant lesquelles on risque sa tête, qui ressemble un peu à une sorte de loterie, c'est-à-dire qu'on est condamné parce que la peine de mort est encore applicable, ou alors on y échappe parce qu'on sent bien que c'est fini. Et aujourd'hui donc, l'affaire Jérôme Carin, un tueur d'enfants arrêté en 1975 dans le Nord, jugé en 1977. Et c'est une histoire que j'ai écrite en m'appuyant notamment sur un très bon livre qui vient de sortir et dont l'auteur est en face de moi, La revanche de la guillotine aux éditions Plein Jour. Bonjour Luc Briand.
Bonjour Christophe Ondelat.
Votre travail sur cette affaire Carin est d'autant plus intéressant que vous êtes magistrat, aujourd'hui conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. J'ai aussi nourri ce récit de papiers qui ont été écrits à l'époque par le truculent chroniqueur d'Europe numéro 1, Frédéric Potcher, et aussi par d'excellentes interviews des protagonistes de cette affaire, réalisées à l'époque par le journaliste Daniel Mermet, que nous avons exhumé des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Voici donc l'histoire de Jérôme Carin. Je l'ai écrite avec Pierre Anquetin, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire a pour théâtre un petit village du Nord, à la frontière avec le Pas-de-Calais, Arleux. Des maisons de briques collées les unes contre les autres, et au 22 de la rue Bias, un troquet. Un tout petit bistrot, une porte, une fenêtre, et au-dessus une enseigne, café. Pas de nom. Nous sommes au mois d'octobre 1975, le 27, il est environ 5 heures de l'après-midi, et le fils de la patronne, Eric, 10 ans, rentre chez lui, avec son cartable sur le dos. Il pousse la porte du café, il traverse la petite salle qui sent la bière et le tabac, il lâche son cartable derrière le jukebox qui joue
« Donnez-moi madame s'il vous plaît, des décibels pour mon tuner. Donnez-moi madame s'il vous plaît, des boots made in Angleterre. »
Et il passe derrière le comptoir et il entre dans la cuisine. Et là il retrouve sa mère, Fernande. Fernande de Vimeux, 36 ans et déjà deux maris et 7 enfants. Quand elle voit Eric arriver tout seul, elle tique un peu mais elle ne dit rien. Tiens, Cathy n'est pas avec lui. Cathy, c'est sa petite sœur, 8 ans et demi. D'habitude, ils rentrent ensemble de l'école.
Bon, sur le coup, je dis rien, c'est vrai. J'ai épluché des pommes de terre pour faire de la soupe à l'oignon. Au bout d'une demi-heure, je dis, et ta sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est punie ou quoi? Alors Eric, il me fait « Ah non, dis-moi, j'ai oublié de te dire. Tu sais, je me suis que t'as donné à manger au midi. » Je dis « Ouais, quoi ?» Il a pris Cathy et puis il a dit qu'il était parti chercher des vifs pour Jean-Louis. Alors je fais « Ouais, mais j'ai depuis le temps-là. »
Eric dit que le monsieur a emmené Cathy pêcher des appâts dans le marais et qu'ils sont partis sur la route de Paluel. Le monsieur, Fernande voit très bien de qui il parle. Henri. Un pochetron qui traîne au village depuis 2 mois, de bistrot en café. Pareil qu'il dort dans une grange, une cloche, comme on dit à Arles. Trapu, brun, rougeau, avec une moustache. Sinon, pas mauvais bougre, hein. Il était là à midi. Fernande lui a servi une bonne assiette de blanquette de veau. Quand Jean-Louis, son mari, rentre du boulot, Fernande lui explique.
Lâche-tu autre l'eau? Elle n'est pas rentrée. Il y a le type de ce midi qui l'a emmenée.
Et là, Jean-Louis part à la recherche de Cathy. Et sur les coups de 6 heures, voit-il pas que le Henri se pointe au bar.
Admis, Fernande. La chiotte, elle est où? La chiotte? Elle n'est pas revenue? Non. Moi, je l'ai laissée au petit pont.
Fernande lui sert son demi. Mais à partir de ce moment-là, ça trotte dans sa tête.
On n'a pas parlé longtemps. La porte, elle s'ouvre tout grande. C'était Jean-Louis qui revenait devoir aller chercher après Cathy. Il s'amène, il a attrapé par le callback. Puis il a dit, dis-moi d'où tu l'as mis. Quoi? De quoi tu parles? Jean-Louis dit, fais pas l'union chat. Elle chote, de que tu l'as laissé. Dis-moi-le que je la requiert. Il dit, je l'ai pas vu, je l'ai laissé chez Amandine. Il dit, tu te fous pas de ma gueule, il dit. Tu l'as laissé chez Amandine, elle s'en venue ici. Alors là, il l'a attrapé, il l'a bousculé contre le jeu de boxe. Et c'est là qu'il a foutu le beurre noir. Si les gendarmes et les arrêtent pas arriver, il n'y aura pas eu de procès.
Mais pourquoi les gendarmes sont-ils là si vite pour embarquer le Henri ? Eh bien parce que Jean-Louis, en rentrant, les a prévenus. Et heureusement qu'ils sont venus. Jean-Louis était en train de le lyncher à coups de croque-nos. Et voilà donc Henri, à la gendarmerie d'Arleux, qui pour commencer ne s'appelle pas Henri, mais Jérôme. Jérôme Carin, 34 ans. Et justement, les gendarmes le cherchaient, ça tombe bien. Il a cogné son beau-père il y a quelques jours. À part ça, il est cuit comme un petit lu, le Henri, qui s'appelle Jérôme. Les gendarmes le collent donc direct en cellule de dégrisement. On verra quand il aura dessoulé. Et quand il sort, au bout de 3 heures, il a encore 1,51 g d'alcool dans le sang. C'est vous dire s'il était rincé. Il n'est pas très reluisant, le Jérôme, sous le néon de la gendarmerie d'Arleux. Sale, rougeau, avec un œil au beurre noir. Pendant qu'il cuvait sa bière, les gendarmes n'ont pas chômé. Ils ont d'abord interrogé Eric, qui leur a répété ce qu'il avait déjà dit à sa mère. Et ils ont trouvé un deuxième témoin. Madame Liénard, elle promenait son chien et elle les a vus sortir du village tous les deux, Jérôme et la petite Cathy, sur la route de Paluel. Alors maintenant que Jérôme Carin a un peu dessoulé, il est temps de l'interroger. À partir de maintenant, tu es en garde à vue. Bon, pourquoi ? Dis-nous où est la petite et tout va s'arranger. On la récupère et si elle va bien, ben on s'arrête là. Bon, je sais pas, moi. Il est encore temps. Parle-nous, Jérôme. On sait qu'elle est partie avec toi, on t'a vu. Tu as dit à son frère que vous alliez pêcher. Bah ouais. C'est vrai qu'on est parti pour aller chercher des vifs. Hein? Mais je suis plutôt allé boire une bière, moi. La ch'tiote. Je l'ai laissé rentrer chez elle. Où ça es-tu allé boire une bière? Rue de la Chaussée. On t'a vu dans ce bar? Bah ouais. Il y avait Armand, un collègue.
Un collègue?
Ouais, un gars avec qui on boit des coups, quoi.
Un Pandore file interroger la patronne du troquet de la rue de la Chaussée. Pas vu. Et le collègue Armand? Non plus.
Alors, Jérôme, tu nous as menti. C'est eux les menteurs.
Et ça dure comme ça jusqu'à 10h30 du soir. Rien n'a en tiré. Alors les gendarmes le remettent en cellule et ils appellent toutes les brigades du coin en renfort et ils lancent une grande battue du côté des marais, qu'ils ratissent toute la nuit. Et c'est le lendemain matin, vers 9h, qu'ils la trouvent. Cathy, qui flotte sur le dos dans une mare, et dans les roseaux, son petit cartable. Les gendarmes préviennent tout de suite le procureur de la République et c'est le maire d'Arleux qui prévient Fernande.
Le lendemain, quand j'ai vu M. Beauchat arriver, à 9h du matin, les yeux tout rouges, j'avais compris. J'ai dit, Émile, elle est morte. Il m'a dit oui. Cette saloperie là.
Les gendarmes amènent Jérôme Carin sur les lieux. Et de retour à la gendarmerie, sur le coup des 10h30, il se met à table.
C'est Mick qui l'a fait.
Tu l'as emmené dans le marais?
Ouais.
Pourquoi?
Parce que c'est là qu'il n'y a personne.
Et elle te suit?
Ouais.
Tu lui dis quoi?
Je lui dis qu'on doit retrouver des copains. Près de le barque, là. Je lui montre le barque, là.
Et après, tu fais quoi? Après, il la pousse en avant. Il la fait tomber. Il se couche sur elle. Il veut la violer. Elle crie. Elle se débat. À un moment, elle se relève. Elle se met à courir. Elle tombe. Il la rattrape. Elle crie encore. Il l'étrangle. Elle ne bouge plus. Il la lâche. Elle tombe. mais elle respire encore. Alors il tente encore de la violer, il n'y arrive pas. S'il la laisse là, comme ça, elle le dénoncera, alors il la prend et il la porte jusqu'à la mare. Et il arrange un peu ses vêtements pour faire croire à un accident et il la jette à l'eau et il lui enfonce la tête dans la vase.
Combien de temps ? Jusqu'à ce qu'elle bouge plus.
Et après ?
Après, j'ai jeté le cartable à côté d'elle. Et puis, je suis rentré à Arleux. Au plus vite que j'ai pu.
Et tu es allé où ?
Au café de chez Fernande.
Il est allé boire une bière chez la mère, juste après avoir tué sa fille. Mais c'est pas tout. C'est pas quelque chose qu'il a improvisé. Une pulsion qui lui serait venue d'un coup. Il avait l'idée de la violer et de la tuer dès qu'il l'a emmenée. Il a choisi l'endroit pour être tout près du trou d'eau, pour la noyer ensuite. Ça n'est pas un meurtre, c'est un assassinat. Il avait tout prémédité. Le lendemain, 29 octobre, Jérôme Carin est déféré devant le procureur, puis devant le juge d'instruction d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Arleux, c'est dans le nord, mais le corps a été retrouvé sur le territoire du Pas-de-Calais. Dans ce coin-là, on est sur la frontière, je vous l'ai dit. Il est inculpé pour enlèvement d'une mineure de moins de 15 ans, tentative de viol et assassinat. Entre-temps, l'autopsie a confirmé que la petite Cathy a été étouffée dans la boue. On en a retrouvé dans ses poumons, dans son tube digestif, et des feuilles aussi, et de l'herbe. Il en faut un cœur sec pour faire ça à une petite fille de 8 ans et demi. Non ? L'étouffer dans la boue. Mais qui est ce type qui a fait une telle horreur ? C'est au juge qu'il raconte d'abord. L'alcool, ça remonte à ses 14 ans. Il faisait les foins, il avait la gorge sèche. Voilà. Et après, il devient maçon et il a toujours la gorge sèche. À 19 ans, il se marie. Et 15 jours plus tard, il castagne sa femme, bourré, bien sûr. Sa femme devenue son ex-femme et qui racontera...
Le samedi, le dimanche, il restait à la maison, il me frappait. Je disais rien, il me frappait. Je répondais, il me frappait.
Alors début 73, elle prend son courage à deux mains, elle va voir les gendarmes et elle porte plainte. Et Jérôme prend 10 mois de cabane à la prison de Douai. Et à peu près à la même époque, il se met à tousser comme un bœuf, la tuberculose. Alors le docteur l'envoie au sanatorium, mais comme il fait le mur pour picoler, eh bien il se fait virer. Il claque la porte de son dernier patron en juin 1975. Il essaye de retourner chez sa mère, mais son beau-père le fiche dehors. Et voilà. Voilà comment il est arrivé là. C'est à ce moment-là qu'il s'installe dans les marais d'Arleux. Il y bricole une cabane. Son petit frère le ravitaille de temps en temps. Et quand l'automne arrive, il se cache la nuit dans des granges. Voilà qui est Jérôme Carin. C'est un pauvre type. 2 jours avant de noyer Cathy, il va voir sa mère à l'hôpital.
Alors il a bu et il lui dit, tu sais maman, je te dis au revoir. Quand tu vas revenir, je serai enterré dans le jardin derrière ma maison. Il pleurait, pleurait, pleurait. Parce qu'il ne savait plus où aller, mon garçon, monsieur. Il dormait en dessous les ponts, il dormait comme ça dans l'air, dans les pâtures. Un vrai clochard qui était.
Il était au bout du rouleau, Jérôme Carin. Il parlait de se suicider, c'était 2 jours avant de tuer Cathy. Le lendemain de ses aveux, on le présente à 2 psychiatres.
Vous buviez combien de fer par jour ? C'est pour moi. Quelque chose comme 10,5.
Et du vin aussi ?
Ben oui.
Combien ?
Ben, dans les divers aussi. Une bouteille, quoi. Un peu plus.
Soit 2,5 litres de bière et 1 litre de vin par jour. Dans leur rapport, les psychiatres écrivent « Personne extrêmement régressive, primaire, mal structurée, dominée par un complexe de rejet et d'échec, d'inassouvissement affectif. » À part ça, il a toujours été conscient. Il n'est pas délirant, il n'est pas schizophrène, il est donc responsable de ses actes. Mais les psychiatres ajoutent, et notez-le bien ça, parce que ça va compter dans la suite de cette histoire, qu'une fois guéri de son alcoolisme, il ne présentera pas de risque de récidive. Dit par l'intéressé, ça donne.
Ça cause l'alcool tout ça. Jamais j'aurais fait une chose pareille, de sang frais.
Quand il boucle son dossier d'instruction, le juge a le sentiment de l'envoyer tout droit vers la guillotine. Le procès est programmé pour le 12 juillet 76 devant la cour d'assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Juste avant, Jérôme Carin écrit une lettre bourrée de fautes d'orthographe à sa famille.
Ne vous tracassez pas. Vous savez que mon jugement va être très difficile. Je sais que la peine de mort sera mon jugement. Ce qui me fait mal au cœur, c'est pour ma maman, quand elle va apprendre le jugement par la radio ou par la télévision.
Il faut dire que dans l'attente du procès, Fernande, la mère de Cathy, s'est lancée dans un porte-à-porte dans tout le canton. Une pétition pour demander la peine de mort pour Jérôme Carin. Et donc le procès s'ouvre à Saint-Omer le 12 juillet 1976. Une journée, top chrono, pas plus. Aujourd'hui, on y passerait au moins une semaine. Je dis ça pour ceux qui pensent que la justice régresse. Quand il apparaît dans le box, on découvre un Carin transfiguré. En prison, forcément, il ne peut pas picoler. Eh bien, ça lui fait du bien. Il est bien coiffé, la raie sur le côté, joli costume, la chemise peut-être un peu criarde, mais une cravate noire. Sobre. Madame Liénard, qui a vu passer Jérôme Carin avec Cathy, vient dire.
Ah ben la petite, elle suivait. Elle avait l'air contente.
Carin, lui, cause peu. Il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il regrette. En fin de journée, l'avocat de Fernande, la maman, vient déposer la pétition sur le bureau du président. 300 signatures pour réclamer la mort. L'avocat général, sans l'ombre d'une hésitation, demande la peine capitale. Et l'avocat de Carin, Maître Lefranc, qui n'a pas une grosse expérience de la cour d'assises, plaide assez mollement, sans grand talent. Et les jurés délibèrent 50 minutes. Ils ne lui accordent aucune circonstance atténuante et ils le condamnent à mort. Et le public applaudit.
Silence ! Silence !
À l'époque, il n'y a pas d'appel. Mais Carin se pourvoit en cassation. C'est son dernier recours. Son avocat plaide que l'une des questions posées au juré était trop complexe pour être bien comprise. Et il obtient gain de cause. La condamnation à mort de Jérôme Carin est cassée. Il y aura donc un nouveau procès, qui aura lieu cette fois devant la cour d'assises de Douai. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Douai, c'est le Nord. Douai, c'est le département d'Arleux. Les jurés seront forcément très sensibles au sort de la petite Cathy. Il n'est pas du tout certain qu'il puisse sauver sa tête. Et pour Jérôme Carin, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas une bonne date. Ça n'est pas une bonne date du tout. Car juste avant, 15 jours avant, sera jugé un autre tueur d'enfants, Patrick Henry. Et vous allez voir que le destin de Patrick Henry va beaucoup peser sur celui de Jérôme Carin. Je vous rappelle que Patrick Henry a enlevé et tué un petit garçon de 7 ans et réclamé une rançon. Lui aussi, il risque la peine de mort. Sauf que lui, il est défendu par un grand avocat, Robert Badinter, qui décide de faire de son procès le procès de la peine de mort. Et il arrive à convaincre les jurés d'accorder à Patrick Henry des circonstances atténuantes Patrick Henry échappe à la mort, il est condamné à la perpétuité. Et pour les opposants à la peine de mort, c'est une victoire. Mais pour les partisans de la peine de mort, c'est une gifle. Ils sont remontés comme des pendules. Et ça va beaucoup peser, tout ça, sur le second procès de Jérôme Carin, qui s'ouvre 13 jours plus tard. Ce jour-là, à Douai, le 31 janvier 1977, il fait froid et il pleut. Tout le village d'Arleux est là. Le président Guermann est un magistrat chevronné. Il interroge Jérôme Carin avec beaucoup de douceur.
Pourquoi avoir agressé Cathy, monsieur Carin ? L'idée m'est venue comme un coup de fusil.
Ce matin, le président Guermann a obligé Jérôme Carin à raconter comment il avait entraîné la petite Cathy Petit vers les marécages au-delà du village de Paluel, comment il l'avait violée, et sur ce point, bien que le huis clos n'ait pas été prononcé, tout a été dit en détail, je vous assure, et tout a été dit par l'accusé lui-même.
Et ensuite, Carin raconte le meurtre, comment il a essayé de l'étrangler, et comment après, il lui a enfoncé le visage dans la boue, jusqu'à l'étouffer.
Le président, à quel moment avez-vous décidé de la faire mourir, Carin ? Quand j'ai voulu avoir des attouchements avec elle, elle m'a dit « Oh, je vais le raconter à mes parents ». Eh ben, c'est là, monsieur le président, l'avocat général. Vous saviez que vous ne pouviez plus faire marche arrière, n'est-ce pas, Carin ? Oh, j'ai succombé à de basses passions, monsieur l'avocat général.
Et après, il dit
« Je comprends pas ce qu'on m'a pris. J'ai vu rouge, quoi. Moi qui ferais pas de mal à une mouche. »
Ce qui fait bondir la mère.
Oh, Cathy ! Cathy, c'était pas une mouche !
On se tourne vers les psychiatres.
On lui reproche de boire et d'avoir commis son meurtre dans un délire d'alcoolique inassouvi. Est-ce cela, oui ou non ? Eh bien, on n'en sait rien. Il dit qu'il buvait, certes, mais il ajoute « pour mon nécessaire, monsieur le président ». L'expert psychiatre pense que l'alcoolisme ajouté à la tuberculose a fait de Jérôme Carin un infirme mental qui n'a plus de frein pour résister à la tentation. Sa responsabilité est entière, dit l'expert.
L'avocat général Le Flaine a fait toute sa carrière dans les colonies, à Madagascar d'abord et en Côte d'Ivoire après. C'est un dur, un très dur.
Dans son poing, crispé par la mort, on a trouvé des cheveux à vous, Carin. Ça n'est pas la preuve qu'elle s'est défendue ? Elle arrive enfin, en se tortillant, à se sauver, mais vous êtes le plus fort, vous la rattrapez, elle tombe encore, et vous vous jetez sur elle en lui serrant la gorge. Je vais vous faire une confidence, Carin. Je ne vais pas perdre mon temps à démontrer la préméditation. Vous risquez deux fois la peine de mort. Pour moi, une seule suffit.
Mais la suite du réquisitoire de l'avocat général Le Flaine dépasse largement le cas de Jérôme Carin. Le Flaine est pour la peine de mort. Il n'a pas à digérer la perpétuité de Patrick Henry il y a 13 jours à peine. Ça lui reste en travers de la gorge.
À trois, poursuit l'avocat général, c'est perpétré. Un véritable viol de conscience que n'excuse pas le talent souligné des défenseurs de Patrick Henry. On a reporté sur les jurés une responsabilité qu'ils n'ont pas à porter. Ici, à Douai, poursuit le magistrat, vous ne vous substituerez pas au législateur.
Et l'avocat général Le Flaine enchaîne. Il veut démontrer que dans les pays où la peine de mort a été abolie, la Suède, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la criminalité augmente.
Prenez garde, mesdames et messieurs. Si on instaurait dans le pays une jurisprudence où la condamnation maximum serait la réclusion criminelle à perpétuité, combien d'enfants risqueraient d'être sacrifiés ? Le laxisme et l'aveulerie conduisent à l'extension du crime. car un n'a droit à aucune circonstance atténuante. Messieurs les jurés, seul convient la peine de mort. Vous n'êtes pas seuls. Nous ne vous abandonnerons pas.
La plaidoirie de l'avocat général Lefranc s'achève dans un silence de mort. Et après, c'est le pauvre maître Lefranc qui se lève pour plaider. Mais tout le monde s'en fiche. Il a bien du mal à couvrir le brouhaha.
Vous allez condamner à mort un homme qui n'a plus rien à voir avec l'homme qui a assassiné l'enfant. Un homme qui a déjà vécu 15 mois avec le tranchant de la lame au-dessus de son cou. Et qui pourtant s'est déjà amendé en prison par le sevrage et par la discipline carcérale.
Jérôme Carin, bien entendu, a le dernier mot.
Moi, je regrette. Je demande pardon. Ce que j'ai fait est horrible.
Et là, la mère, Fernande, se lève d'un coup.
Et ce que je crois aussi que le jury a tenu beaucoup compte, c'est quand il a demandé pardon, je me suis levée, puis j'ai dit, messieurs, mesdames les jurés, c'est ma fille qu'elle a été assassinée. Pour moi, je suis toujours la maman de Cathy et je vois toujours un assassin devant moi.
Ça ne se fait pas de parler après l'accusé. Les jurés se retirent pour délibérer. Échappera-t-il cette fois à la guillotine?
Eh bien non, la peine de mort n'est pas encore abolie. C'est seulement après une heure de délibération que les jurés de Douai ont condamné Jérôme Carin à mort.
Les gens applaudissent. Fernande, la maman de Cathy, lève les bras en forme de V de la victoire. Et Carin, lui, ben il n'a pas compris.
Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit?
Ils t'ont déclaré coupable et condamné. Mais t'inquiète pas, on va demander la cassation, comme l'autre fois. Et si ça marche pas, il y a encore la grâce du président.
Mais ça m'est venu comme un coup de fusil.
Un fourgon le ramène à la prison sous les huées de la foule. Et le chroniqueur d'Europe numéro 1, Frédéric Potcher, conclut de cette affaire que la peine de mort est devenue une sorte de loterie.
Les accusés passibles de la peine de mort tireront-ils demain le bon numéro à Aix-en-Provence, à Toulouse, à Saint-Omer, à Paris? Le talent d'un Badinter, d'un Kiègemann, d'un Lemaire vous évitera-t-il la peine capitale alors que le talent d'un avocat général façon le flemme ou la croix, risque de vous amener la guillotine sur un plateau. La peine de mort devient en quelque sorte une loterie.
Le pourvoi en cassation, cette fois, est rejeté. Maître Lefranc tente alors d'obtenir la grâce de Giscard d'Estaing. Il va le voir, il argumente. Le président ne pose aucune question. Et finalement, il laisse, comme on dit, la justice suivre son cours. Matin du 23 juin 1977, on vient chercher Jérôme Carin dans sa cellule à la maison d'arrêt de Douai, vers 3h30 du matin.
Allez Jérôme, il est l'heure.
L'heure de quoi? C'est pas vrai! C'est pas vrai!
Si Jérôme, Giscard a refusé.
C'est dégueulasse! Il grassait les bougnoules! Et pour moi!
Carin s'habille, se débarbouille. Il remercie ses gardiens, et notamment un dont il dit qu'il est l'homme le plus gentil de la terre. Et puis il dit à son avocat.
Maître, dites à ma mère que je regrette toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Dites-lui de me pardonner. Dites-lui que je penserai à elle jusqu'à la dernière minute.
Il accepte un verre de cognac, le premier depuis bien longtemps. Et puis on lui attache les mains et les chevilles. On lui coupe les cheveux sur la nuque. On taillade le col de sa chemise et on le conduit devant la guillotine. Et les bourreaux l'allongent sur la planche.
Il avait encore l'espoir d'obtenir sa grâce, et jusqu'au terme, je pense qu'il a toujours espéré cette grâce. Jérôme Carin a eu conscience de l'atrocité de son crime, et c'est peut-être dans une large mesure sans doute ce qui explique son comportement au moment de l'exécution, car je puis dire que Jérôme Carin est mort avec un courage absolument exemplaire.
La petite sœur de Jérôme Carin apprend la nouvelle par la radio.
On l'a appris à la radio, moi, on écoutait à la radio parce qu'on nous avait dit que c'était à la radio qu'on aurait su s'il aurait été gracié ou exécuté. Alors on l'a mis à RTL et à 23 juin, Jérôme Carin allait être exécuté. Alors j'ai monté, je suis allée le dire à ma mère. On la revenait pas même. Ouais.
Jérôme Carin est le dernier condamné à mort de nationalité française. Dans quelques semaines sera exécuté le dernier condamné à mort. Tout court, un Tunisien, Hamida Djandoubi.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.